Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'est pas une équipe qui a forcément beaucoup de bagarres, donc il va falloir être plus malin, plus intelligent.
On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser.
C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, si je puis dire.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi ce soir pour analyser les matchs du soir de la Ligue 1. Tous les matchs se jouaient ce soir, donc il y a beaucoup d'analyses à faire. On va essayer de parler de toutes les rencontres avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec Florent Gautreau. Salut Florent.
Salut à tous.
L'After est sur RMC. L'After est également direct sur YouTube, sur la chaîne After-Foot. Vous pouvez nous avoir à la radio, nous avoir donc également à la télé. Bon, je le fais pas souvent, mais là je le fais quand même parce que les matchs viennent de se terminer. Donc je rappelle les résultats. Paris qui bat Metz 3-1, Strasbourg qui bat Lille 2-1, Lyon qui bat Nantes 1-0, Brest bat Lorient 4-0, Nice balance 2-0, Montpellier-Marseille 1-1, Monaco gagne à Toulouse 2-1, Rennes gagne à Clermont 3-1, Reims bat Le Havre 1-0. Puis j'ai quelques résultats internationaux. En Coupe de la Ligue en Angleterre, Liverpool se qualifie en demi-finale et bat West Ham 5-1. En Liga en Espagne, le Barça bat Almeria 3-2. En Allemagne, Leverkusen gagne face à Bochum 4-0 et le Bayern gagne à Wolfsburg 2-1. Voilà pour les principaux résultats du soir. On y va, le 32-16 est ouvert. N'hésitez pas à nous appeler, 32-16, mais également direct studio sur notre messagerie à nous sur l'appli RMC. Les 3 points, pardon, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Flo, de quoi est-ce que tu veux parler ?
Bah d'abord un peu de fatigue sur cette dernière journée un peu traditionnelle avant Noël, parce que notamment pour les équipes qui jouaient l'Europe, Lille, Lens, Marseille, poussif, Lens pas bon, Marseille bousculé, Lille amorphe. Désolé Strasbourg, pour Strasbourg et Gilbert, mais Lille n'était pas terrible. Le deuxième point, c'est Brest, parce que c'est quand même un truc de dingue. Ils sont quatrième de Ligue 1, ils ont mis 4 buts avec un joueur incroyable qui avait mis 5 buts dans sa carrière jusque-là. et en contrepoint, si on a le temps, mais je ne sais pas si on fera tout, Lorient, qui a un niveau de jeu catastrophique, qui était la hype de l'an passé, enfin des années passées. Puis troisième point, Nice, solide, efficace. Nice qui revient dans le game, sans être génial non plus, mais qui est quand même très costaud dans cette Ligue 1.
Daniel, tes 3 points.
Nice, je sais pas si tu viens de le citer là parce
à la
que
fin, ouais.
Ah bah voilà. Ben moi je vais le faire au début. Je pense que ce soir c'est peut-être leur meilleur match depuis le début de la saison. Voilà, j'ai retrouvé le Farioli Ball. Ça va surprendre les Niçois que je dise ça, mais si on regarde bien, je pense que c'est un bon match, même s'il manquait du monde à Lens, mais il manquait également un petit peu de monde à Nice. Bon, la victoire du PSG, tranquille, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qu'il y a de marquant dans ce match-là, c'est peut-être ce qui s'est passé en tribune. J'aimerais bien qu'on ait 30 secondes pour en parler quand même du côté de Boulogne. Bon, après, faire les 3 points sur une soirée comme ça, c'est un peu compliqué. Lyon qui se redresse, Marseille qui, honnêtement, ne mérite pas beaucoup. Ils ont une large possession à Montpellier, mais ce n'est pas extraordinaire ce qu'ils ont proposé.
Et les Ocas plutôt Montpellier, enfin les
ouais,
situations.
Ouais, bon, ils ont le contrôle quand même à Marseille, mais bon, c'était pas assez tranchant. Donc voilà, mais globalement une plutôt belle soirée. Quoi. Il y avait 9 matchs en même temps. Moi, j'aime pas du tout parce que ça casse un peu les yeux.
C'est chiant. C'est très
chiant parce que tu regardes pas grand chose et tout. Après, j'aime bien le point de Flo. Sur une journée en semaine, à la fin de l'année comme ça.
Ouais, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ton côté sympa, journée sympa, parce qu'à part Brest qui a fait briller, j'ai vu moi des équipes poussives.
Oui, non mais justement c'est ça, c'est peut-être pour ça que je le dis, parce qu'il y a eu des résultats un peu inattendus. C'est une soirée où t'es là, tu regardes les 9 en même temps, c'est un multiplex un peu à l'ancienne, et au final il se passe quand même plein de choses. Parce que t'as la victoire de Lyon, l'OM qui gagne pas, Rennes en kidam, dans un match kidam que personne n'a vu, qui va quand même gagner le match.
C'est des victoires un peu en trompe-l'œil, parce qu'effectivement Lyon c'est pas un bon match, Rennes à Clermont c'est parce qu'il y a l'expulsion des Clermontois, Rennes fait pas un bon match.
De toute façon on va commenter du résultat, hein, parce qu'on peut pas dire qu'on voit vraiment les matchs quand on regarde neuf comme ça.
Non mais quand tu regardes, tu jettes un œil, ça te pique les yeux quand même.
Globalement c'est assez difficile d'évaluer les rencontres, et après t'as bien fait de parler de Brest, parce qu'on en a parlé cette semaine. Et voilà, ben écoute, ils partent à la pause Noël à la 4e place, et ça c'était complètement fou et inattendu.
Bon, on va démarrer dans l'ordre du classement, hein, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Le PSG, donc, qui a gagné tranquillement. Alors, ce qui s'est passé en tribune, ce à quoi fait référence Daniel, c'est que des supporters de la tribune Boulogne ont été expulsés du stade pour avoir eu l'outrecuidance
de se réunir entre eux et de se mettre debout et de chanter.
Voilà.
Voilà où on en est au Parc
des Princes. Mais quel crime au Parc des Princes !
Voilà.
Donc ils ont contrevenu aux fameuses règles qui étaient éditées dans un mail de l'an passé dans lequel on disait faut pas vous réunir, faut pas vous regrouper.
Ce problème dure depuis très longtemps.
Et ils veulent décidément pas qu'un nouveau COPS s'installe à Boulogne, c'est ça l'histoire.
Parce que ça leur permet de vendre des places très chères et personne n'est pour, et comme ça il y a le monopole de l'autre côté et il n'y a pas d'ambiance plus forte au PSG et le club... visiblement, on veut absolument que ça se passe comme ça, mais honnêtement, il faudrait voir si de façon légale, on a le droit de sortir des gens du stade, quoi. Et si le règlement qui est édicté et auquel, paraît-il, ces gens-là ont contrevenu, c'est véritablement quelque chose de, qui tient devant la justice. Est-ce que t'as le droit de sortir des gens d'un stade parce qu'ils se sont mis debout? Je sais pas. C'est un peu bizarre.
Ils ont peut-être, pas le droit de sortir juste parce qu'ils se sont mis debout, ils ont peut-être les droits de les sortir s'ils sont pas à leur place.
Ça doit être pour ça. Je pense que c'est là-dessus qu'il doit y avoir un argument, sinon ils ne sont pas tout à fait à leur place. Je pense que Montpellier, ils sont top 3 des plus débiles de France. Parce que c'est tout le temps et ils n'ont rien à cirer. Mais rien à cirer.
On rappelle ce qui s'est passé. Ils ont même balancé des fumigènes alors que leur équipe menait
d'or. Une petite bombe agricole aussi. Perdre des points, handicaper leur club, je pense qu'ils s'en tapent complètement. On est dans la folie pure.
Ouais, et puis il y a déjà eu des problèmes cette année à Montpellier par ailleurs.
Et il y en a l'année dernière, pareil dans un match contre l'OM en début de saison, Rongier avait pris un truc, s'était fait ouvrir la gueule. Il y a tout le temps à Montpellier, caillassage, Montpellier-Brest, là ce soir, c'est très fréquent. On en parle moins parce que c'est Montpellier. Rappelle-toi de la phrase de feu
Louis-Nicolin. Oui, on va la retrouver, Jérôme Thomas, là, dans son...
Mais elle est presque pas assez forte, parce qu'elle peut un peu désuète, la phrase de Louis-Nicolin.
Oui, elle colle toujours à la grave.
Oui, mais c'est bien plus grave.
Puisque tu parlais de bombe agricole, est-ce qu'on peut dire que l'ex-compagne de Lilian Thuram, Karine Le Marchand, est une bombe agricole?
Je sais pas.
À rapport à son émission?
Bah, je te laisse complètement maître de ce jugement.
Précisons que c'est une blague.
Bien sûr.
Oui, tu sais.
On a le droit.
Le PSG niveau jeu, les gars. Alors évidemment, on analyse de près les choix de Luis Enrique parce que à chaque compo, il y a un truc qui se passe.
Géo trouve tout.
Voilà, donc ça continue. Hein.
Géo trouve, mais là, on peut pas vraiment dire que c'est Géo trouve tout parce que ça, on l'avait déjà vu. On l'avait vu ce week-end, le 3-3.
Oui, mais pas forcément avec les mêmes joueurs.
Au même place. Zaïre Emery était couloir droit, Barcola faisait un peu couloir gauche. Il y avait trois mecs dans l'axe, donc on l'avait un peu vu cette trouvaille, de Géo, on l'avait un peu
il
vu.
Il a quand même, par rapport à ce qu'il a dit quand même sur Mbappé, la fameuse phrase, à mon avis totalement bidon d'ailleurs, quand il dit « non mais en fait Kylian il fait ce qu'il veut », ce qui n'est pas tout à fait vrai évidemment, dans la bouche de Luis Enrique. Néanmoins, quand en première période le système reste relativement figé, ça va pas, 80% de possession et une frappe cadrée, ça c'est la première période. Et quand Mbappé, en fait, bien qu'étant neuf, dézone, repart sur son côté, va même à droite parfois et dézone, ce que Luis Enrique disait en affirmant qu'il faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire que dans ses déplacements, rien ne l'empêche de bouger. Je dis pas que c'est le meilleur système, hein, mais ça montre que effectivement c'est faisable aussi comme ça. Après, je pense que Kolo Muani n'y arrive pas. Quand même, là il y a un souci.
Situation d'échec, on a également quelque part un peu brisé Ramos parce qu'on lui fait plus du tout confiance. Donc il y a plus de neuf dans cette équipe et personne ne me fera changer d'avis que Kylian Mbappé n'est pas un neuf et qu'il ne doit pas être neuf et que pour sa carrière, il doit rester en haut à gauche parce que c'est là qu'il a brillé jusqu'à ses 25 ans et c'est là que ce soir il a encore mis un but extraordinaire, c'est dans cette position-là.
Oui, mais rien ne l'empêche d'en être neuf, d'être là. La preuve, il l'a fait ce soir.
Je m'en fous. Il doit être en haut à gauche. Non mais attendez.
Non mais il essaie des choses.
On va acter qu'on n'est pas d'accord.
Non mais il essaie,
personne ne me fera changer d'avis.
Non, d'accord.
Il n'a pas à essayer. C'est ton meilleur joueur. Il est en haut à gauche. Basta. Tu trouves un avant-centre. Tu te démerdes pour trouver un avant-centre. Tu fais confiance à Ramos. Tu fais un faux neuf si tu veux. T'as Dembélé à droite. T'as Mbappé à gauche. Et tu te démerdes pour trouver un neuf. Et il y a un autre truc qui ne doit pas varier dans cette équipe, c'est la présence de Vitinha.
Mais tu sais que les très bons défenseurs, les très bons défenseurs Mbappé toujours sur son côté gauche, ont réussi à le bloquer.
Posture,
mais non, c'est pas une posture, c'est la tienne qui est une posture. Toi, t'es bloqué sur un truc qui existe depuis 5 ans.
J'assume.
Moi,
je te
dis juste que la différence entre toi et Luis Enrique, Daniel. Non, la différence entre toi et Luis Enrique, c'est que Luis Enrique.
C'est que lui, il est entraîneur et qu'il fera ce qu'il veut.
Pénard, s'il était comme Galtier, il te dirait je laisse Mbappé à gauche parce qu'il veut jouer à gauche, je fais jouer Messi parce que Messi veut jouer en marchant. Là, t'as Luis Enrique qui dit je vais essayer ça.
Et
t'inquiète pas que s'il doit le mettre à gauche, il le remettra à gauche. Mais je te dis que quand tu parles de jeu où trouve tout, c'est que Luis Enrique, il arrive à se servir des matchs comme aujourd'hui pour essayer des choses. Il essaie des trucs.
À quoi ça sert?
T'essaies de voir les automatismes. Bah, bien sûr.
Ah ouais.
Tu fais la même équipe, donc de A à Z, de la première à la dernière journée.
Non, tu vas sur un ou deux jours de temps en temps. Mais donc, ils font quoi la plupart des entraîneurs?
Bah, ils y cherchent une équipe type pour les grands matchs.
D'accord. Et tu l'as pas l'équipe type?
On a une idée de l'équipe type.
Tu l'as pas l'équipe type?
Si, il l'a, mais lui continue de chercher.
Je pense que fin août, t'étais encore en t-shirt et claquettes que l'équipe type, tu l'avais, hein.
Ouais, on avait l'équipe.
Tu l'avais.
Mais moi, je trouve pas débile.
Partout, tu l'avais. Il y avait aucun problème.
D'essayer notamment de dire à Mbappé, essayer de jouer là. Montre-nous ce que tu peux faire à ce poste-là.
Tout le monde sait que le meilleur milieu, c'est Vitinha ou Ugarte.
Et quand on a un qui est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu changes juste un joueur l'un pour l'autre.
Tu fais comme tous les entraîneurs.
Ah voilà.
T'as une équipe type.
Quand ton adversaire, le PSG n'est pas suffisamment fort comme Luis Enrique peut avoir eu des équipes comme le Barça à une époque pour dire j'ai un système et rien ne me fera changer. Luis Enrique en fait c'est quelque part un aveu d'humilité. Il en fait pas beaucoup en disant mon équipe quand elle va rencontrer des cadors, il y aura peut-être la nécessité de passer à trois derrière. Il y aura peut-être la nécessité de mettre une fois Mbappé dans l'axe. Et donc il travaille ces différents systèmes. Ça veut pas dire qu'il a pas un système préférentiel. Il est pas fou. Tu crois que ce que tu dis, il le voit pas?
Mais je
crois qu'il le fait comme ça pour se marrer, pour le fun.
Mais tu peux en parler avec Jérôme Bretagne. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est les anciennes pattes de gauche. Vous êtes des bons joueurs et vous savez qu'il faut bricoler sans arrêt.
Non, au contraire.
Parce qu'évidemment,
t'as un bon entraîneur pour une fois au Paris Saint-Germain.
Tous les entraîneurs font ça, donc vous avez raison.
Non, t'as un bon.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a pas qui font ça.
T'as un bon entraîneur au Paris Saint-Germain.
À part les disciples de Guardiola.
Mais est-ce que tu trouves que c'est pas un bon entraîneur pour le PSG?
Je ne sais pas, je vais attendre la saison. Pour l'instant,
il y a une équipe qui se construit,
Là, il se passe un truc ce soir.
Non, mais globalement, depuis le début de la saison, c'est pas une équipe qui fait plaisir à ses supporters, même si elle a plein de défauts, plein de trous, même si Skriniar est lent, même si Colomani n'est pas bon, même si le mercato doit apporter des joueurs. Et t'as raison. Effectivement, tu trouves un œuf ou tu fais jouer un œuf, mais est-ce que tu trouves pas que Luis Enrique, il apporte quelque chose, au moins, à ses joueurs dans les ordres de management, de leadership?
Je vais te répondre, parce que ça fait 4 fois que tu fais la même phrase. Je pense qu'au début de saison, il y a réellement quelque chose qui s'est passé et que son laboratoire permanent ne permet pas aux joueurs de se mettre totalement dans la maîtrise de ce qu'il pourrait faire. Qu'il y a des joueurs qui ont besoin de confiance, qu'il en a flingué quelques-uns, notamment les offensifs, parce que en dehors de Dembélé et de Mbappé, pour le reste, c'est assez pauvre. Je pense que son obstination à considérer que Lee est un intouchable. D'ailleurs, je pense que les gens commencent à se rendre compte, hein, pour les gros plans, ça n'arrête pas. Ce soir, ça a été un festival.
Ah bon?
Ah ouais. C'est lui et les tribunes, où il y a les Coréens.
Moi, j'ai vu beaucoup de Coréens dans les tribunes.
Si on me dit, c'est parce que c'est filmé. Si on me dit qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça.
Parce que là, des Coréens qui se sont levés dans la tribune de Boulogne?
Ah, ça, on sait pas. Mais ils auraient pas touché. Pour le business, c'était pas bon. bref, je pense que tu peux travailler les automatismes sur une équipe, sur un milieu de terrain qui a besoin de jouer ensemble parce que, Zaïre Emery a besoin de s'affirmer totalement. Mais, ok. Oui, effectivement, Luis Enrique, c'est un bon entraîneur. Maintenant, c'est un entraîneur qui, moi, me fatigue par sa prétention. Mais c'est un bon entraîneur. Et
Olivier,
je pense que Mbappé n'est pas un avant-centre.
Olivier, pour conclure sur le PSG. Olivier, bonsoir.
Ouais, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc moi, je voudrais juste répondre pour commencer à Nicolas qui vient de demander à Daniel s'il était content de Luis Enrique. Si
Florent,
un bon
c'est Florent. Nicolas, c'est mon frère, mais ça n'a rien à voir.
Ouais. Alors moi, je vais lui répondre. Hein. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis supporter de PSG. Je vais juste lui demander depuis le début de l'année s'il peut me donner un match où vraiment on a pris du plaisir devant un match du PSG. Parce que juste pour finir sur le match de ce soir là. À part voir une possession à 82%, 800 passes et tout, sincèrement, par rapport à l'année dernière, je m'excuse, hein, C'est Luis Enrique, ok, l'année dernière, je n'aimais pas Galtier.
Non, là, Enrique, là, en revanche, là, tu es en délire total. Là, je suis absolument pas d'accord. Tu ne peux pas dire ça. L'année dernière, il y a eu zéro match. Cette année, il s'est passé quelque chose contre Dortmund, contre Milan, le match contre l'OM. Il y a un état d'esprit qui est complètement différent. Tu as des joueurs. Autant, ce qui m'énerve, c'est son bricolage permanent. Mais il y a réellement un nouvel état d'esprit. Tu ne peux pas dire le contraire. Et tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de matchs qui sont bons.
Il y a trois jours, je vous écoutais. Il y a trois jours, toi-même, mais c'était vrai. Trois jours, vous étiez en train de taper, de dire c'est quoi l'état d'esprit.
Mais majoritairement, combien il y a eu 18 matchs 18 matchs plus 6 de Ligue des Champions, tu en as eu 80% qui ont été, qui ont affiché des joueurs exemplaires sur le terrain.
Ça n'était pas le cas depuis des années,
donc tu ne peux pas dire ça, c'est pas vrai.
Mais Daniel, je suis pas en train de te
parler. Vous avez la mémoire courte.
La qualité des joueurs, je te parle du fond de jeu.
Mais même du fond de jeu contre l'année dernière, rappelle-toi de la phase de poule, rappelle-toi de ce qui s'est passé à Dortmund contre Milan. T'as raté deux matchs à l'extérieur, mais tous les autres matchs ont été bons.
Mais cette année, la phase de poule, tu t'es amusé. Tu t'es amusé à Milan, tu t'es amusé à Dortmund, tu rigoles là, j'espère, Daniel. Tu rigoles. Par rapport à l'année dernière.
Honnêtement, t'es complètement tombé sur la tête ou quoi?
Mais non.
Le match contre Milan au Parc des Princes, c'est pas un bon match?
Il a dit à Milan et à
Le match contre Dortmund au Parc des Princes, c'est pas un bon match?
Il dit là-bas.
Je te parle pas au parc.
Mais l'année dernière, tu la connais, la phase de poule? Cite-moi les matchs dans l'ordre. Allez, vas-y, on va rigoler. Vas-y, on va jouer. Vas-y, cite-moi les matchs dans l'ordre.
Non, parce que moi, les matchs comme ça me fait. On n'est pas au tribunal ici. On demande pas à citer comme ça. Il te parlait des matchs à l'extérieur. Cite-moi les matchs à Milan. Mais pourquoi? Quel intérêt de citer les matchs?
Il peut pas parler dans le.
Mais ça n'a aucun intérêt.
Envoie-moi les matchs.
Ça n'a aucun intérêt. Non, t'as pas besoin d'envoyer les matchs.
Si, il envoie les matchs. Quand on veut discuter, faut être précis. Envoie-moi les images.
Il te parle du stade là.
Eh ben, je t'écoute les matchs. Donc, les matchs en question, on a fait trois matchs à l'extérieur en Ligue des Champions.
Vas-y, lesquels l'année dernière? Vas-y.
4-1.
C'est quoi, c'est un interrogatoire là?
Mais non, mais je
on est au commissariat.
On a joué.
C'est au commissariat du Casino Lisbonne
et Haïfa.
Non.
Vas-y, les trois matchs. Vas-y, comment ils étaient les matchs?
Moi, je te parle de cette année. Je te parle de l'année dernière.
Moi, j'arrête la discussion. J'arrête la discussion parce que tu ne veux pas répondre parce que toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière, à Haïfa, c'était lamentable. À Benfica, c'était lamentable. À Turin, c'était lamentable.
Mais cette année à Newcastle, c'est comment?
C'est ce que je lui ai dit.
Bah voilà, deux matchs. À Milan, c'est comment?
Je l'ai dit qu'ils étaient pas.
Mais il t'a dit ça, Olivier! Il t'a dit à Milan!
Non, il a dit que l'année dernière, ça avait été bon.
Écoute, tu réécouteras le podcast.
Daniel, voilà. En fait, je peux pas parler parce que je t'ai parlé du match à Milan, à Dortmund, et je t'ai parlé des trois matchs à l'extérieur. Alors, je t'explique juste quelque chose. On prendra rendez-vous pour le match le 14 février parce que c'est toujours le jour de mon anniversaire, donc on va rigoler. Tu sais, pour passer en fait en élimination directe, il y a deux matchs. Donc à la maison, on va flamber contre la Real Sociedad.
Bah, si t'en es à espérer que le PSG perde, reste dans ta misère, mon vieux.
Daniel, et on verra le match retour, ok?
Mais très bien, mais t'as envie que le PSG perde, reste dans ta défaite.
Mais attends, je suis pas en train. Non, je suis juste, tu sais quoi, je suis comme toi, je suis un passionné du PSG.
Mais t'es pas un passionné, t'es un loser, c'est tout.
Arrête un peu, ça va pas ou quoi?
Tu sais quoi, Daniel?
Daniel, enfin.
Mais je l'ai connu,
t'as pas de vacances, toi.
Le PSG qui perd, on dirait Jimmy.
Il est fou.
On dirait Jimmy, c'est les mêmes. En fait, au fond d'eux, ils souhaitent que le PSG perde. Ils aiment se faire.
Mais Daniel,
je les connais. On en a dans la rédaction des comme ça. Jimmy, c'est le même.
Bah, Jimmy n'est même pas là pour
Jimmy a pris une balle perdue.
Il a
eu tort de partir.
Le PSG perd. Au fond d'eux, c'est ça.
Olivier. Malheureusement, il faut qu'on passe à d'autres matchs, mais
joyeux Noël, Olivier, parce que là, t'as été rhabillé pour les fêtes.
Je pense que j'ai fait beaucoup plus de déplacements avec lui.
Bien sûr.
Mais il y a un moment donné, je souhaite pas la défense.
Tu viens de me dire rendez-vous le 14 février et le match retour pour voir le PSG perdre. Tu te rends compte de ce que tu dis?
Non,
il a pas dit ça.
Il a pas dit ça.
Rendez-vous match retour, on va faire un bon match aller, on va perdre au retour. Il a pas dit ça.
Non, il a dit rendez-vous contre la Real Sociedad. Tout ça, tu sous-entends.
Je t'ai juste dit parce que tu es dans tes émissions.
Allez, on arrête les gars.
Écoute. C'est juste de te dire, on verra le match aller et le match retour. Juste que je t'ai dit. J'ai pas dit que je souhaitais la défaite de Paris.
D'accord.
J'ai dit, il faut voir le match aller.
Olivier, donc, je te souhaite un joyeux Noël.
Ouais, merci beaucoup les gars. Salut Daniel, à bientôt.
Dans un instant, l'OM.
Si le PSG joue bien.
Un mot quand même.
Et je vois, Daniel, que tu as pris la défense de Luis Enrique. Est-ce que c'est le terrain sur lequel je t'ai
un mot quand même sur Ethan Mbappé qui est rentré.
Pas exagéré.
Ça vous a pas échappé, oui. Ethan Mbappé.
Ethan est rentré.
Avec la petite vidéo de sa mère.
Ce qui est dingue, c'est que. Même s'il y a des choix, mais tout le monde dit ah ben c'est normal parce que c'était le jour de l'anniversaire de son frère. Non, j'espère que c'est pas juste la raison pour laquelle il était Mbappé rentre.
C'est vrai que ce serait assez fou.
Parce que ce serait dingue, genre, bah tiens, en fait, fait entrer le petit parce que c'est l'anniversaire du grand. Je pense qu'il y a d'autres raisons, mais bon. Mais l'image est sympa. L'image
est
sympa.
Extraordinaire de Vitinha qui mérite d'être titulaire absolument à tous les matchs, qui en est déjà à 5 ou 6 buts. Dans le début de cette saison, je pense que c'est le milieu de terrain de ce début de saison au PSG.
Et alors,
je pense que si tu prends tous les matchs, il est même au-dessus de Zaïre Emery, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, qui doit être titulaire évidemment. C'est notre petite trouvaille de l'année. Mais Vitinha fait une première partie de saison exemplaire.
Et alors, dans la pierre que je rajoute au mur construit patiemment et certes en bricolant par Luis Enrique, il y a aussi ces milieux de terrain qui marquent et qui se projettent. Vitinha, il est sur la première action, la seule de la première période d'ailleurs, la seule frappe, il est dans la surface. Il est presque à la place du 9. Et c'est vrai qu'on les a jamais, les milieux, autant vus tirer, marquer. Zaïre Emery a marqué aussi cette saison. Donc ça, c'est aussi un des progrès, entre guillemets, dans l'histoire récente.
Mais
du PSG.
Je pense que l'auditeur qui était là tout à l'heure doit encore rêver au milieu de terrain titulaire de l'année dernière qui, durant toute sa carrière au PSG, n'a plus qu'un but d'avance sur Vitinha maintenant, en 10 ans.
Dans un instant, l'OM à Montpellier, avant de parler des autres matchs de Lyon, de Nice, de Lens et de tout le reste, on est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h26, pile. Florent Gautreau et la Daniel Riolo également jusqu'à minuit et demi. On analyse la dernière soirée de Ligue 1 de 2023. Je rappelle que demain, l'after sera à Madrid. Deuxième étape de notre tournée internationale. Demain soir, le Real joue d'ailleurs. Et on sera à Madrid avec Fred Hermel, avec Thibaut Leplat demain, notamment pour parler foot espagnol et parler Super League. Puisque vous le savez, demain, la Cour européenne de justice rend un arrêt qui pourrait ouvrir la porte à la création de la Super League. Vous saurez tout demain soir en nous écoutant à Madrid. On aura plein d'invités. Et de nombreux débats sur la question demain à partir de 21h minuit demain en direct de Madrid. L'OM, maintenant les gars, Marseille à Montpellier. Bon, on a parlé de ce qui s'est passé dans les tribunes, évacuons-le, mais tout de même, on a retrouvé notre fameux Louis Nicolin, à qui on va rendre hommage, Louis Nicolin, qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours clairvoyant.
Avec les cons qu'il y a là, parce qu'il y a des cons, hein, mais ces cons, on va s'en occuper.
Il avait annoncé ça il y a quelques années. Cela dit, il s'en est occupé, mais il y en a qui sont toujours là.
Mais la façon dont il le dit, c'est presque un peu gentil, un peu désuet. Et je ne suis même pas sûr que ça corresponde aux types qui sont en tribune aujourd'hui et qui visiblement se foutent complètement de savoir si le club va être sanctionné ou pas.
Il y a une scène quand même assez forte et évidente, mais c'est Darzakarian qui a quitté son banc et qui a été autorisé à le faire par les délégués d'ailleurs, pour aller calmer, engueuler la tribune, Savani également qui a été
plus fort, même
plus fort et qui a dû être calmé par ses coéquipiers. Mais là, faut se rendre compte quand même de ça. Faut que les supporters, enfin certains supporters, certains ultras entendent ça aussi. Il faut qu'ils comprennent que quand on voit ce genre de choses, déjà on valide auprès de plein de gens qui connaissent pas bien le foot. Si tu leur expliques ce genre de choses, tu les amènes au stade ce soir là à Montpellier, tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est les supporters de l'équipe adverse? Non, même pas. C'est incompréhensible pour le commun des mortels. Donc ensuite, tous les supporters se font traiter de débiles en France à cause de gens comme ça. Mmh. Et enfin, après, on en revient quand même au fameux truc de déplacement.
Je pourrais citer la ministre lundi soir. Je ne me permettrai pas de répéter ces mots. Gilbert doit les avoir en tête. D'ailleurs, j'ai noté que la cagnotte n'est pas tombée pour la ministre.
Vous n'avez pas osé
notre... Non, c'est le réalisateur qui n'a pas osé. Il a pas osé.
Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive à Jérôme? Il a perdu la cagnotte.
Elle a dit, c'est pas trois connards qui vont décider de l'image du football.
Et là, il n'y avait pas la cagnotte, là. Voilà, merci Jérôme.
Je te dis, ouais, pourquoi pas.
Sauf qu'elle va pas revenir peut-être de sitôt, donc on va pas lui réclamer son euro.
Mais
pour l'OM.
Mais non, enfin voilà, pour finir, faut pas s'étonner si tu veux, si tu prends des mesures drastiques quand tu vois que dans ton propre stade, t'es capable de foutre un boxon pareil. Boxon, c'est autorisé ou c'est dans la
cage? Ça passe. Qu'avez-vous pensé du match de Marseille?
Écoute, moi j'ai dit tout à l'heure, c'est bon. Je répète, hein, des auditeurs ont dû voir le match à 100%, nous, on ne l'a pas fait. Néanmoins, quand on regardait le match, c'est quand même un des matchs qu'on a le plus regardé, il y a une possession qui est éclatante, un nombre d'occasions, enfin, Marseille a largement dominé la rencontre. Néanmoins, c'était une domination qui me donnait pas l'impression d'être très très efficace. Il y avait rien de réellement comment dire dangereux. Ouais, le Comte a fait deux arrêts vraiment importants. Vraiment.
Très beaux arrêts.
Voilà.
Et le Comte confirme. J'ai entendu un truc arrêts. En disant juste, parenthèse gardien, excellent, machin, dans le commentaire. Très bon sur sa ligne. C'est un gardien, entre guillemets, un peu plus à l'ancienne qu'un gardien moderne. Mais voilà. Parenthèse refermée.
Voilà. Et au final, le résultat, il n'est pas bon du tout. Parce que tu vois qu'en faisant peu, mais ça, ils ont l'habitude, Montpellier, ils jouent comme ça, ils jouent en contre. Ils essayent de faire beaucoup avec peu et ils ont failli. Ils ont eu.
Je trouve que c'était meilleur que d'habitude Montpellier.
Au-delà du but, il y a une occasion en début de match qui est assez hallucinante. Il y en a une autre en fin de match. Elle est même pas en fin de match. Elle est un peu plus tôt sur une énorme cagade de Balerdi. Marseille, en dominant et en ayant plus d'occases.
Je te trouve un peu sévère avec Montpellier.
Aurait pu se faire braquer.
Je trouve un peu sévère avec Montpellier
sévère rapport au nombre d'occases. Le match il est dominé par l'OM.
C'est logique. Ce qui est moins logique, c'est que, alors d'abord, moi je voulais souligner quand même que ce Montpellier-là, cette équipe-là, a fait quand même un match en ayant la volonté d'aller gagner, même avec ses armes, d'aller gagner ce match-là. Ils ont mis parfois Marseille sous pression, peu de fois, mais quand ils l'ont fait, ils sont allés à fond dans la surface et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Montpellier. Quant à Marseille, l'excuse de la fatigue, elle vaut, c'est certain. Je l'ai dit en début dans le premier de mes trois points. Ça vaut pour toutes les équipes européennes. On va dire peut-être hors PSG, c'est pas le même banc de touche non plus. Mais moi, j'ai trouvé cette équipe poussive. C'est-à-dire que ce nul, il est pas si mauvais entre guillemets par rapport aux deux trois occasions qu'a eu Montpellier. Il est pas si mauvais pour Marseille parce que Marseille, j'ai pas eu la sensation qu'ils avaient les moyens, qu'ils étaient suffisamment au-dessus pour gagner ce match. Donc, ça laisse un petit peu. Sceptique sur ce qu'on a vu de l'OM. L'OM avait un bon calendrier et on pensait qu'ils allaient faire le plein d'ailleurs sur les derniers matchs. Depuis qu'ils ont changé de système, c'est sûr que c'est mieux, mais ça laisse toujours un peu sur sa fin. Offensivement, à part donc Aubameyang qui est de retour sur ces derniers matchs, personne n'est suffisamment convaincant à 100% pour dire que l'OM peut faire une deuxième partie de saison flamboyante. Par rapport à la fatigue et à cet argument, d'ailleurs, les équipes qui n'ont pas de Coupe d'Europe comme Monaco auront forcément plus d'arguments en deuxième partie de saison que cette équipe-là qui, si se comporte comme ça dès qu'il y a un peu de fatigue, moi j'ai trouvé ça un petit peu inquiétant pour l'OM.
On a avec nous Ozane qui est supporter marseillais. Bonsoir.
Salut tout le monde.
Salut. Salut. T'es d'accord avec ce que dit Flo là?
Tu penses qu'il pensait à Noël, comme a dit Gattuso là, à faire les courses?
on aura besoin d'un gros mercato. Enfin, un gros mercato, on aura besoin quand même de se renforcer pour cet hiver là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis totalement d'accord sur le fait que depuis le passage à trois défenseurs de Gattuso, on a un petit peu l'impression de revoir le style de jeu qu'on avait avec Igor Tudor. Mais on reste quand même sur notre fin, c'est-à-dire bon là, sa fameuse défense à trois, il l'a mis en place depuis, si je dis pas de conneries, c'est depuis Lyon qu'il l'a mis en place. Et puis ça a bien fonctionné, contre des équipes qui sont hyper mal classées et
c'est dès qu'il y a du répondant, notamment physique, tu vois, Montpellier en gros met l'accent sur ça, un combat, une équipe qui a du répondant, qui va jouer les coups à fond. Tu n'as pas la certitude que cet OM-là va le broyer un moment ou un autre.
Totalement. Et ce que j'aimerais bien rajouter également, c'est que Montpellier, c'est probablement l'une des équipes les plus pénibles à jouer dans le championnat. Donc, avec la défense à 5 et le bloc qui est super bas, là, honnêtement, on a parlé de la possession de l'OM aujourd'hui. Je trouve ça totalement logique d'avoir la possession comme Montpellier. Étant donné que Montpellier, ils défendent super bas, ils attendent. Donc, avoir la possession, ouais, mais si c'est une possession stérile, on joue à la baballe et on tourne autour de la surface sans pouvoir faire quelque chose. Moi, franchement, je vois la deuxième partie de saison de l'OM, on va dire, un peu inquiétante quand même.
Inquiétante pourquoi?
Voilà, ils sortent d'une belle série.
Tu vois bien, regarde, là, ils étaient sur une belle série. Ouais, avant, quand Gattuso est arrivé, ils trouvaient pas la clé. Faibles. On disait, il a rien apporté. Il a un peu changé le schéma, ça s'est mieux passé.
On l'a pas contre ce système-là, contre des équipes, une opposition plus costaud.
Ouais, mais tu vois bien qu'on est dans un championnat où tout change d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas réellement de valeurs sûres. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs les plus sûres de notre Ligue 1 en ce moment? Brest, quand ils jouent pas les gros, qui arrive à avoir une forme de régularité. Nice, qui honnêtement après deux matchs qui étaient un peu moins bien réussit avec son rythme, avec son style à s'imposer au point d'être deuxième et d'être la seule équipe qui traîne derrière le PSG pour l'instant.
Peut-être un peu Monaco qui a eu un trou mais, ou deux. Mais
Monaco avec une information, c'est qu'il ne faut pas qu'il leur manque Golovin ou un mec important. Tu me diras que ça, pour beaucoup d'équipes c'est la même chose, mais on a eu cette info les concernant. Bon,
ils seront privés de Golovin d'ailleurs au prochain match.
C'est une Ligue 1 assez classique finalement. Et je pense que ça va rester assez ouvert. Alors que moi aussi, j'ai fait partie de ceux qui voyaient un podium déjà bouclé avec Nice Monaco. Si tu me demandes encore aujourd'hui, je vais te dire toujours Paris Monaco Nice pour le podium à la fin. Mais je ferme pas la porte. Derrière, ça m'a l'air d'être assez aléatoire quand même.
Nice et Monaco, on va en parler dans quelques instants justement. Je remercie Ozan au 32-16. Nice, Monaco, puis Lyon au programme. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. On se retrouve tout de suite.
Vivre RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h37, l'after jusqu'à minuit et demi ce soir avec la Ligue 1. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Tout à l'heure, évidemment, on parlera de la victoire de Rennes. Évidemment, on parlera de la série extraordinaire de Strasbourg. 3 victoires d'affilée, c'est fou.
Je t'ai dit, ça joue l'Europe.
Toi, t'as dit ça, toi.
Il y a deux
à quelle heure?
Il y a deux jours, mais en rigolant, je l'avoue.
Ça joue le podium des 5.
Il y a deux jours, mais en rigolant.
Bon, pour l'instant, Nice, parce que c'est le réveil niçois, là. Ce soir, ça allait un peu moins bien. Les joueurs eux-mêmes disaient qu'ils commençaient à être un peu fatigués, que le jeu de Farioli était, disent-ils, très exigeant physiquement. Alors que bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus des matchs complètement dingues. Donc on se disait, mais finalement, c'est quoi qui est exigeant dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils font? Mais enfin, là, ce soir, voilà, ils ont battu.
Tu sais bien que la récupération, le travail défensif, quand tu joues au foot, c'est beaucoup plus exigeant que. Que le travail offensif. Hein.
Enfin, t'as pas l'impression que c'était l'équipe qui courait le plus, tu vois.
Non, mais quand tu vois, par exemple, regardez bien le rôle qu'a eu Thuram dans cette première partie de saison. Très surprenant.
Il est blessé, d'ailleurs.
Ouais, qui a fini blessé et qui a un rôle défensivement et en récup beaucoup plus important, qui a beaucoup plus travaillé à la fois donc tactiquement et physiquement. T'as raison, qui est blessé d'ailleurs. C'est une équipe très surprenante. Après, je laisserai Daniel parce qu'il me dit qu'il a vu le meilleur match. Moi, c'est vrai que je l'ai pas, pour les mêmes raisons que celle évoquée tout à l'heure, je l'ai pas vu en entier. Mais en tout cas, c'est une équipe qui, dans l'idée de la construction globale de la saison, c'est-à-dire Farioli qui commence par les fondations, qui ne fait pas briller et qui s'améliore, en tout cas, c'est le cas. Ce qu'on nous a vendu, si tu veux, le projet, on va dire, sur une saison en progression, c'est le cas. Ce soir, c'est le cas. Après, toi, tu as vu peut-être mieux encore, mais moi, j'ai trouvé surtout que dans la deuxième période, effectivement, ils ont éteint Lens. Après, il y a aussi, il faudra quand même qu'on parle de Lens en Ligue 1, après les matchs de Coupe d'Europe, parce que c'est compliqué pour certains joueurs.
Ils font partie des équipes, effectivement, européennes qui, à mon avis, sont un peu cramées.
Ouais, ils souffrent.
Ouais. Au moment où arrive Noël, là. Non, je disais plus abouti. Je sais pas, il faudrait qu'on ait des supporters niçois pour. Je n'ai pu partager mon point de vue qu'avec un supporter niçois. Ça n'est pas
suffisant. On en aura un dans quelques instants,
mais on va en écouter. J'aimerais bien avoir leur avis. Évidemment, probablement qu'on citera le match de Paris, mais je pense que ça n'a rien à voir. Le match d'aujourd'hui. D'abord, Lens est quand même une équipe qui met une forme de pression. Il faut quand même savoir que Lens, dans ce match qui était assez équilibré, hein, le Nice-Lens, Lens a eu plus de possession. On dit que le Farioli Ball, c'est de faire des passes et d'essayer d'anesthésier le match, de contrôler le match. C'est jamais réellement enlevé. Hein, c'est pas, ça va pas dans tous les sens, c'est un contrôle. Lens a fait, puisque ça compte, c'est pour ça que je le cite, hein, je cite rarement de cette stat, mais ils ont fait plus de passes. Il y a eu un petit peu plus d'occasions. Mais néanmoins, ils dégageaient cette espèce de sérénité qui leur permet, quand ils trouvent l'ouverture, d'être hyper efficaces. Alors après, il leur faut toujours des mecs qui allument un peu la mèche, là,
Boga
sur le deuxième but. Bah, ce qu'il fait, c'est l'accélération, le centre sur Mofi et sur le péno. Hein, peut-être un chouï généreux, mais néanmoins, l'action, c'est ça, quoi. C'est, on fait une récupération et hop, on jaillit d'un coup, quoi. On pique et il y a accélération de Guessant dans l'axe, il est touché dans la surface, pénalty logique. C'est parce que Lens, je considère que c'est une bonne équipe. Donc, d'avoir réussi à rester propre, pas prendre de but, finalement concéder peu d'occasions et gagner 2-0, ça me semble être quelque chose d'assez abouti. Maintenant, peut-être que je ne l'ai pas assez bien vu et on va voir ce qu'en pense le supporter niçois maintenant.
Sofiane, bonsoir.
Et bonsoir l'équipe.
Salut Sofiane.
Salut Sofiane.
Sofiane, tu sors du stade, ça tombe bien.
Eh ben écoute, moi je suis globalement satisfait. Et puis pour reprendre les propos de Daniel... C'est Micheline de la Conta qui va être contente. Hein. Après, donc du coup, pour bien analyser froidement, je vais essayer de pas mettre mon enthousiasme pour la victoire au-dessus de ma lucidité. Le Farioli Bowl, il n'est pas encore au point, on ne va pas se mentir. Hein. Mais on va se concentrer sur le classement. Ce n'est pas encore mon football idéal, parce qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Mais on est assez content, que ce soit au niveau de l'ambiance au stade, au niveau du spectacle.
Il y a deux points par match. Tu as un parcours de champion s'il n'y a pas le PSG. C'est un très beau parcours. Un parcours qui rappelle 2017 en termes de points.
En gros, quand tu as la différence avec 2017, je voulais y venir, tu ne vas pas me dire que quand tu vas au stade, par exemple, Tu y vas parce que tu as envie de voir gagner ton équipe, comme tous les supporters d'ailleurs.
Oui, il y a un kiff comme...
Ça kiffe
comme,
pas, tu sens pas dans sûr. Le stade des enflammades sur les actions, t'es d'accord, ça reste, comme disait Daniel, très contrôlé, mais pas enflammé.
Oui, voilà, après quand on a connu les années avec Atem Ben Arfa qui nous régalait, tout ça, là, c'est un football différent. Je trouve qu'il nous manque quand même un peu de joueurs de percussion. Là. Bon, Boga, ça va un peu mieux, mais... De l'autre côté, la board,
c'est le joueur qui met un peu le feu.
T'es dur parce que effectivement, à part Boga, ce genre de jeu qui demande effectivement une accélération décisive à un moment ou à un autre, c'est vrai que même la board ne le fait pas. Il fait du travail, il travaille tous.
La board, il est à la mine. Hein.
Ouais, il travaille.
Il travaille.
Comme il a toujours fait dans toutes les équipes où il était. Hein,
mais... Ouais, mais de temps en temps, il brillait. Ouais, la board de Rennes, le trio avec Terrier, Bourigeaud.
Il courait déjà beaucoup.
Évidemment, il a toujours, c'est toujours été un joueur généreux. Mais il y avait ça pétillait quoi. Ouais, là, il est que dans le taf. Hein.
Mais aujourd'hui, il a plus que ça. Il a plus que ça, sa générosité, parce que c'est plus son football. Il a du mal à s'impliquer collectivement dans l'équipe parce qu'on a l'impression qu'il ralentit les actions. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il va y avoir quelques recrues là pour le prochain mercato, d'autant plus qu'on risque de perdre des joueurs entre la CAN, les blessés, les suspendus. Ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu.
On a un coach qui a clairement mis la main sur son vestiaire, qui a convaincu ses joueurs que c'était la solution. Les joueurs sont contents parce qu'ils gagnent. Et donc, tu vois sur le terrain qu'ils sont prêts à se dépouiller tous. Je prends l'exemple de Barre, qui est toujours l'exemple du joueur dont on dit qu'il ne jouera pas, mais qui, lui, s'est trouvé totalement dans ce don de soi, cette abnégation que réclame Farioli. Donc, tout ça, c'est top, parce qu'on ne va pas se plaindre après en Ligue 1 d'avoir parfois des mauvaises attitudes de joueurs et à l'inverse, d'avoir une équipe comme ça.
Ah non, là, les mecs, ils sont tous dans le même sens.
Mais est-ce que tu tiens une saison? Moi, la seule question, c'est soit il y a progression, comme c'est le cas, et que tu arrives, effectivement, avec une recrue ou deux, à enflammer quand même un peu plus le jeu, une fois que tu as cette base qui est magnifique en termes d'état d'esprit et de contrôle et de récupération, ou est-ce que justement, tu t'émousses sur ce type de jeu?
Et puis, on pensait qu'il y avait des joueurs clés qui pouvaient être un énorme handicap en cas d'absence, comme Eddy Chamier. Ndaye Chamier devant la défense, qui est un joueur essentiel dans le dispositif. Bon, ben là, il est pas là. Ça tourne quand même. Les relances de Dante qui sont de plus en plus contrôlées par les attaquants adverses. Bon, ben là, ce soir, c'est passé aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a de la ressource. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas, Nice, jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas en zone Ligue des Champions, au final. Hein.
Pardon, le fait qu'ils gagnent tous les gros de Ligue 1, ce n'est pas non plus
C'est vrai.
Paris, Monaco, Marseille, Lens, Reims. Je veux dire, c'est quand même des équipes qui pressent haut, qui jouent au ballon. On arrive quand même à ressortir, à créer quelque chose et à la fin avoir les trois points. Donc, ce n'est pas anodin.
Pour conclure sur Nice.
Juste sur Nice, parce que j'ai un fidèle supporter de Nice qui est un fidèle auditeur de l'After, qui est un de mes correspondants et un ami par ailleurs, et qui m'écrit ça. Je veux juste dire, parce qu'il a fini la traduction de la thèse de Farioli, donc il s'est tapé ça, et donc sur les gardiens de but, il écrit ça, Farioli: parmi tous les choix possibles dans un contexte d'équipe, le rôle qui incarne le mieux la capacité de choix est le rôle du gardien de but. Dans le gardien de but coexistent les trois modèles de vie proposés par Kierkegaard, parce que la jouissance du gardien réside dans le fait de saisir le ballon précisément dans l'instant du temps. Il poursuit toute sa vie cet instant, et dans cette poursuite, il acquiert une conscience croissante qui l'amène à réaffirmer le choix chaque jour, à chaque entraînement, même après la douleur de l'erreur ou d'une défaite. Bref, je dis
il
pas
était
tout.
Entraîneur des gardiens, Farioli.
C'est
un rôle qui le passionne, mais.
Et donc, ce supporter.
Quand Thibault Leplat t'envoie des messages, tu peux dire que c'est lui.
Non, c'est pas lui. Et c'est mon ami Laurent qui m'envoie ça et qui m'étonne. Et qui met un truc très drôle à la fin, après cette traduction de la thèse Farioli, qui dit: tu m'étonnes que Kasper Schmeichel n'ait pas accroché.
Kierkegaard, il est danois en plus.
Mais oui.
Je dis pas de bêtises.
Tout à fait, je crois. Ouais. Bon. Ah, voilà, c'était à l'instant philosophie de
Lens, les gars. Un mot de Lens, parce que je regardais quand même la série lensoise. Vous disiez, en ce moment, il mine de rien. Sur les cinq derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite. Hein. C'est ce soir.
Ils étaient en phase de reconquête et de remontée. Ouais,
j'ai regardé ces résultats.
Il n'y a plus du tout la même énergie.
Et en Ligue 1 aussi, parce que tu as raison, c'est intéressant de regarder les résultats, tu sais, qui sont tous en vert pendant certaines périodes. Et pourtant, si tu regardes bien en Ligue 1, ça correspond à des moments où ils sont pas sur tous les matchs. Hein. Il faut sans doute mettre ça en corrélation et en rapport avec leur match de Coupe d'Europe. Mais c'est plus poussif. D'ailleurs, Aize commence à plus faire tourner dans sa rotation Saïd plus souvent qu'avant dans la rotation par rapport à Wai.
Adrien Thomasson
ne joue plus. Bon là il y avait Danso qui était suspendu.
Et on arrive à la fin de la première partie de saison. Wai a quand même trop peu marqué. Grosse déception pour l'instant, parce que là maintenant c'est le moment du bilan.
On va te dire qu'il a marqué dans les deux matchs de Ligue des Champions.
Au bout d'un moment c'est pas assez, tu vois. Effectivement le match contre Arsenal en septembre, ça nous a tous enflammés, mais trois mois plus tard il faut se poser et réfléchir
et dire que là
le compte n'y est pas du tout. C'est 35 millions, c'est le plus gros recrutement de l'histoire du club, le compte n'y est pas.
Ouais, non, mais moi en dehors de la somme du transfert, c'est effectivement vu les espoirs qu'il y avait en lui et je pense la qualité du joueur, je pense que lui-même est très frustré et sur ses dernières, vous savez, là, ces dernières attitudes qu'on a vues sur le terrain, on a vu aussi un joueur qui lui-même, tant mieux quelque part, n'est pas satisfait. Maintenant, je m'interroge sur un truc par rapport à ces matchs, c'est de voir si maintenant, il est capable de jouer sous pression, ce qu'il n'a pas montré effectivement dans tous les matchs, s'il est capable de surmonter cette frustration, ce qu'il n'a pas non plus montré sur ses derniers matchs, et s'il est capable de faire preuve, d'être un peu plus dur, de plus de QI foot. Parce que j'ai trouvé aussi que parfois, dans son attitude et dans ses déplacements, il n'avait pas toujours la bonne attitude. Donc, passer ce cap, c'est la Ligue des Champions, c'est Lens, c'est pas Montpellier. Donc, c'est le moment de le montrer. Moi, je crois encore beaucoup à ce joueur. Donc, je suis effectivement, comme dit Daniel, là on se doit d'être exigeant avec ce genre de joueur. Et là, il n'est pas suffisamment au niveau.
Lyon, dans quelques instants, au programme. Avant de parler de tous les autres matchs de ce soir, on est là encore pendant 40 minutes jusqu'à minuit 30. L'after continue. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riello, Florent Gautreau jusqu'à minuit 30 pour la dernière journée de Ligue 1 de 2023. D'ailleurs, je précise que l'after continuera pendant les fêtes. Hein. Noël, Nouvel An. L'after sera là tous les soirs, bien sûr en direct avec à chaque fois l'actu, le mercato.
Et je devrais faire européen. Le Boxing Day.
Florent, il est là pas mal.
Je crois qu'on est ensemble pour le Boxing Day.
Mmh. Tout à fait. Je serai avec vous pour les fêtes.
Bon. Non, moi, uniquement pour le Boxing
Day. Sur scène du 26 au 31.
Bravo. Et en plus gratos. C'est beau. Lyon gagne encore, décidément. L'effet sage continue. Lyon bat Nantes.
Là, c'est bon, c'est sûr. Là, il peut acheter la dinde, le panettone, il peut mettre la table.
Tu l'avais déjà envoyé se rhabiller, là. Tu l'avais envoyé.
C'est bon.
Tu l'avais envoyé en réserve au bout de deux matchs.
Moi, j'avais principalement dit que Genesio ne reviendrait pas. Pour le reste, ça s'est beaucoup tâté.
Non, mais tu avais dit c'est pas possible de continuer avec lui.
Ouais, mais rapidement. À l'époque. Oui, mais rapidement.
Non, mais attends, à l'époque, pourquoi pas? Parce qu'on se demandait s'il allait y arriver, mais bon, apparemment.
Non.
Ce soir, ça, j'ai dit, je serai à l'OL, je ne sais pas à quel poste.
Non, mais la meilleure solution, c'est réellement maintenant de continuer. Tu peux pas lancer un nouvel entraîneur maintenant, dans cette équipe-là, qui va mettre en place un jeu, là, maintenant. Il faut.
Non, mais le soir, on a parlé de ça, c'est que, comme il ne mettait pas le bleu de chauffe et qu'il n'y arrivait pas, on se disait autant mettre un entraîneur adepte de la Ligue, enfin connaissant la Ligue 1 et capable de leur expliquer en gros la vie, plutôt que d'un gars qui, entre guillemets, n'arrive pas à les motiver là-dessus. Après,
il était un peu trop sage, mais ça a changé.
Le match décisif, c'est ce fameux match là où Lopez fait cette erreur et puis la compense en arrêtant le pénalty. C'est ce match qui est la première victoire à domicile, où il y a la communion avec les supporters derrière. Il faut ce genre de truc. Après, voilà, l'équipe, comme je l'avais dit à une époque, j'avais dit ça marcherait avec n'importe quel entraîneur. Oui, moi je le pense toujours, grosso sans doute que c'est l'erreur de casting, mais globalement t'as un effectif pour t'en sortir, mais qui doit comprendre qu'il faut, en gros, se mettre le bleu de chauffe et se mettre en mode maintien.
Ils l'ont encore mis ce soir, hein, parce qu'ils jouent une partie du match à 10, ils tiennent
ouais,
le score.
Il est expulsé à la 83e, hein, Lovren. Mais effectivement, déjà, ils maintiennent leur score, ils font pas grand-chose, t'as raison. Et c'est vrai que Nantes aurait dû d'ailleurs...
Nantes est très bien. Hein.
Aurait dû faire
un match où Lyon s'est pas baladé quand même.
Non, mais d'ailleurs, Lyon, là, en ce moment, gagne ses matchs. sans se balader ou en bénéficiant de circonstances. C'est arrivé aussi à Rennes.
Je suis pas sûr que ce Lyon-là va se balader un jour.
Hein. Ah non, ils vont pas se balader, mais ils vont se sauver. Qui est déjà... Et là, ils sortent de la zone rouge.
Ils prennent un petit backstab.
Moi, ils croisent Lorient prochainement, parce que contre Lorient, visiblement, tout le monde se régale. D'ailleurs, la Régis, pour Noël, il faut se renseigner, il faut suivre un petit peu s'il est à table. Impossible qu'il...
Ouais, c'est vrai que...
Il n'est pas sa place. Hein.
On parlera de Lorient un petit peu plus tard.
Est-ce que tu vois le départ avorté à Nice, toute cette histoire de l'été dernier, à mon avis, elle a fait beaucoup de mal. Pas seulement du côté de Brice, mais du côté
du... Il y a eu la prime, il y a eu la responsabilité, il y a eu beaucoup de choses. Hein.
Ouais, puis du côté du vestiaire. Mm. Parce que tu sais, ton leadership en prend un coup quand tu sais que le coach...
C'est le moment de jouer.
Désolé Flo, mais non, le Père Noël,
ce que je vois, c'est que le Père Noël, il a encore jamais osé me couper. C'est jamais arrivé.
Moi, c'est un honneur.
En tout cas,
moi, j'ai entendu Stephen Brown et se fait couper par le Père Noël dans le Moscato.
C'est vrai.
Donc, je me fais couper par le Père Noël. Ouais,
c'est le grand jeu de Noël qui continue. Hein. Vous connaissez le principe, vous envoyez Noël par SMS au 732-16 si vous voulez participer au tirage. C'est la semaine high-tech, la dernière semaine avant Noël. Hier, on a fait gagner un MacBook Air. Et si vous voulez ouvrir le coffre une fois que vous avez le MacBook Air, vous pourrez le faire tout à l'heure. Vous aurez la totale dedans. Il y a un iPhone, il y a un casque Bose. Il y a quoi encore? Enfin, il y a plein de trucs.
Magnifique.
Voilà.
C'est un Noël incroyable.
C'est un Noël incroyable. Exactement. Donc inscrivez-vous Noël par SMS au 732-16. Rendez-vous tout à l'heure en fin d'émission. Pierre est avec nous. C'était pas Pierre Sage, hein, c'était un homonyme, supporter lyonnais. Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir. Pierre au téléphone.
Salut Pierre.
Salut Pierre.
Salut Daniel. En fait, c'est à toi que je voulais parler.
Aïe.
Ah.
J'aimerais que tu fasses ton mea culpa.
Aïe.
Par rapport à ta réflexion, Pierre, mon homonyme, sage, est un prof de gym. Alors, comme vous dites souvent sur votre antenne, l'important, c'est les 3 points. On en a mis 9 en 3 matchs. Tu dis quoi à ça?
Mais mon petit Pierre, si tu as bien suivi l'after ces derniers jours, on en a beaucoup parlé et ma réflexion avait pas mal évolué là, à son sujet. T'as dû rater des épisodes.
Oui, j'ai raté des épisodes. Ah, tu sais, moi, je suis dans la restauration, je travaille à la brasserie Georges. Alors, j'ai déjà vu.
Alors,
Daniel,
je ne t'en voudrais pas.
C'est où la brasserie Georges?
Surtout la brasserie Georges à Lyon. Endroit mythique.
Magnifique, magnifique endroit. C'est la brasserie qui est à côté de la gare là.
À côté de la
Il n'y a pas un. Par Dieu, c'est quoi Perrache? À la sortie de Perrache. Ah super, j'adore cette brasserie.
Moi aussi. Bernard Lacombe vient souvent manger. On devient presque confident parce que toutes les anecdotes que j'ai à 58 ans, je le connais depuis Mathusalem. Mmh. Ah, c'est magnifique. Alors, tu dis quoi sur l'entraîneur?
Alors donc,
actuel
comme
de Lyon,
je te dis, comme tu as raté, parce
futur.
Que tu fais un magnifique métier, tu avais raté des épisodes, effectivement,
ouais.
Suite à... Mais d'ailleurs, je crois que c'était avec Flo, l'épisode du prof de gym, on en parlait avec Stéphane Guy, et au moment où on militait au début pour un entraîneur, comme disait Flo, plutôt habitué à la Ligue 1, qui allait venir en opération commando, parce qu'on ne voyait pas chez Pierre Sage ce caractère, on disait à partir du moment où les joueurs ont finalement accepté de travailler avec lui et justement de se salir un petit peu, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là, et qu'ils ont eu cette victoire à l'arraché qui leur a servi un peu de déclic. Effectivement, l'évolution, ça a été de dire, bah, écoute, c'est à partir du moment où les joueurs veulent le faire, à partir du moment où Pierre Sage est là et que les joueurs veulent bosser avec lui, il n'y a pas tellement à réfléchir sur la mise en place d'un jeu. Je suis pas sûr que demain on voit Lyon mettre en place un projet de jeu, ou alors que peut-être que Sage en est capable. Hein, mais je crois pas que ce soit la priorité pour les Lyonnais qui sont sortis de la zone de relégation. Ça va être de la bagarre, je pense, à peu près toute la saison. Ce soir, ça encore été de la bagarre, contre une équipe faible. Donc, comme on le disait avant que tu arrives, je pense qu'il peut prendre, il peut s'installer à table et il peut, je sais pas si vous en servez à la brasserie Georges, il peut commencer à découper la dinde.
Et prendre la cervelle de canu en entrée.
Mais en tout cas, ce que j'aime bien avec toi, Daniel, c'est que tu as de la conviction, tu as de l'opinion. Et si des fois on te démontre que tu n'as pas toujours raison, tu l'acceptes.
Le problème, c'est que ça n'arrive quasiment jamais.
N'est-ce pas passer ça quand même?
Comment dirais-je? Je mettrai un bémol.
Vous avez des exemples? Citez-moi des exemples.
Plein.
Bah, vas-y.
Je t'écoute.
J'ai pas d'exemple comme ça qui me vient de
non, mais c'est.
Mais je sais que t'as déjà accepté le fait que.
Absolument, mais c'est pour ça que je demande à Flo un exemple contraire. Voilà. J'aimerais bien qu'il m'en cite un.
Je vais chercher.
Où j'ai déjà reconnu le peu de fois où c'est arrivé, parce que c'est effectivement arrivé peu de fois, de reconnaître une erreur. Vraiment, j'attends de voir. Vraiment,
ça peut prendre du temps, disons.
Ah oui, ça va vous prendre du temps. Je vous garantis que ça va vous
prendre du temps. Non, que toi, tu admettes une erreur.
Non, je vous le dis, vous aurez du mal à trouver. Vous aurez du mal à trouver, vraiment.
Bon, Pierre, en tout cas, toi, tu le gardes, Sage. On est bien d'accord.
Par exemple, sur Boateng à Lyon,
j'espère que Lyon va rester
normal
et que vous en parlerez régulièrement. Je vais pas dire tous les épisodes de Daniel et Jean-Michel Aulas, c'est un vrai roman feuilleton, c'est magnifique, et ça me fait délirer, ça me fait sourire, et j'apprécie parce que au moins il y a du punchline.
Est-ce que Jean-Michel vient souvent à la brasserie Georges?
Non, il vient plus.
Et non.
Et non.
Non, il vient plus.
C'est Bernard Lacombe qui vient régulièrement.
Oui, lui, c'est un habitué, c'est un fidèle.
Ouais, ouais. Et vraiment, c'est quelqu'un de, franchement, il est abordable, mais c'est magnifique. Exceptionnel.
Merci Pierre, bonne soirée.
Merci
à bientôt pour reparler de Noël.
À tous, continuez bien votre émission.
Bel endroit à brasser Georges à la sortie de Perrache.
J'apprécie en tout cas ça me distrait de vous écouter. Merci beaucoup.
Bah écoute, continue d'être fidèle, entre merci. Une info Kimpembe assez étonnante. Aujourd'hui, on a appris que Kimpembe ne rejouerait pas cette saison. C'est un vrai coup dur pour lui et pour le PSG. Problème du tendon d'Achille.
Je me demande s'il n'y a pas eu rechute et si le problème n'est pas
il
beaucoup
a pas, en
plus
fait,
grave.
Il n'a pas complètement guéri. Il va peut-être même se faire réopérer.
Oui.
Voilà. Et là, ce soir, qu'est-ce qu'on apprend? Kimpembe qui poste sur ses réseaux sociaux. Heureux de vous annoncer que je prolonge jusqu'en 2026. C'est extraordinaire quand même.
Qu'est-ce que je te dis?
Ouais, mais alors attends, d'un autre côté, si tu profites de la blessure d'un joueur pour ne pas le prolonger, enfin tu vois, je veux dire, c'est tu peux le voir dans l'autre sens aussi.
Ou dire le foot, les sentiments, les contrats.
Non, ce que je veux te dire, c'est admettons qu'il y ait des discussions.
Apparemment, ouais.
Visiblement.
C'est vrai qu'au PSG, ils sont très généreux, mais. Si par exemple tu as dit à un joueur que tu voulais le prolonger.
Est-ce que c'est plus ou moins fou que Kurzawa qui avait pris 4 ans par Leonardo?
Ah ouais, pour ne jamais jouer, en effet.
Parce qu'il est où, en fait?
Bah, il est là. Hein.
En compte qu'il n'est jamais là, il n'est même plus sur le banc, il ne fait rien. Mm-hmm. Tiens, sur Lyon, juste pour terminer, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, hein, parce que c'est bien beau, Pierre Sage, machin, le redressement, mais le redressement est surtout dû à une personne. La lettre sur Twitter de Jérémy Lopez.
Oui, évidemment.
Voilà.
C'est à partir de là que tout a basculé.
Tout a basculé. La lettre, 3 victoires.
Exactement. Ah,
qu'est-ce que tu veux de moi?
L'effet Lopez.
Moi, je veux bien, on parle de Pierre Sage.
Avant, il y avait Lisandro Lopez, maintenant, il y a Jérémy Lopez.
Voilà. Donc, il y a eu la lettre, 3 victoires derrière. La lettre et engueulade avec Jean-Michel Aulas.
Ouais.
Parce que.
Tweet de Aulas qui critique et qui dit qu'il.
Ne pas confondre les Lopez avec les Lopez.
Non, c'est un Lopez.
C'est un Lopez.
Un Lopez.
Comme Franck Lopez.
Mais ce qui est marrant, c'est que. Il faut se demander jusqu'à quel point.
Jennifer Lopez.
Il n'a pas une entrée.
C'est une autre histoire.
Il n'a pas une entrée décisive dans le vestiaire parce qu'il s'adressait notamment aux joueurs. Cette lettre, elle s'adressait notamment aux joueurs.
Ah oui, ouais.
Et là, ça fait encore une erreur, d'ailleurs, stratégique en critiquant cette lettre. Il faut
oui,
le
mais
dire.
Peut-être que justement, ça a attiré. Non, c'est
le regard
pas une erreur.
Enfin,
c'est une erreur, oui, mais n'empêche que ça a permis.
Non, mais c'est une erreur d'analyse d'Aulas dans le sens où. La réponse, il disait vous attaquez l'institution.
Absolument.
Alors que c'était tout l'inverse. Il défendait
Exactement.
L'institution qui était justement bradée par tout le monde, y compris, disait-il, par certains joueurs qui semblaient peu s'en soucier.
Façon, clairement, Jérémy Lopez est le directeur sportif.
le shadow officieux. Directeur sportif.
Oui, c'est le shadow. Il a un shadow cabinet.
Dans un instant, Brest au programme, Rennes, Monaco et tous les autres matchs que nous n'avons pas encore évoqués. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. À tout de suite.
RMC. Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Une leçon de mathématiques.
Une fois 9, 64, 63.
11 fois 14.
114.
154.
Code tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement. Maintenant, je me prends pour un professeur de mathématiques.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, la Ligue 1 au programme ce soir. C'est dur, hein, un soir avec autant de matchs, de rentrer dans les détails, les rencontres, on ne peut pas le faire malheureusement. Il nous faudrait 4 heures d'after. Et puis bah, demain, vous bossez hein, tous, là, vous qui nous écoutez. Certains sont peut-être en vacances, cela dit. Malheureusement,
il s'est passé un truc.
Demain, on part.
On doit faire tout ça en une heure et demie.
Nous, demain, on part.
Oui, j'ai annoncé tout à l'heure, j'ai donné
des détails. J'ai envie de le redire, demain, on part.
Demain, on part, et puis c'est bientôt Noël aussi. Ah,
ça n'a aucun rapport, ça, pour le coup.
Non, c'est un rapport.
Ah bon?
Le cadeau de Noël idéal, c'est quoi, Daniel?
C'est la revue de l'after à moins de 5 euros par mois.
4,50 euros.
Ah, on a descendu le prix encore?
C'est à 4,50 euros par mois. la revue de l'After.
Au début, c'était
abonnement,
5, c'est 4,50.
Cadeau de Noël idéal, il vous reste quelques jours.
Ça va se finir en gratos ou quoi, la revue?
4,50€, c'est déjà beau.
D'accord.
Revue de l'After qui passe en mode bimestriel à partir de 2024. 6 numéros, dont le prochain consacré en grande partie à la Coupe d'Afrique des Nations.
Donc on paye moins cher et il y a plus de numéros avec ça, pardon. Voilà.
Vous allez sur l'After.media. Revenons à la Ligue 1 et parlons, si vous le voulez bien, de Brest. Parce que l'effet, c'était dans les 3 points.
Tu as parlé tout à l'heure.
C'était dans les 3 points.
Ah, avant-hier.
Vous ne voulez pas détailler, on s'en fout. Ah, donc non, là,
il s'est passé un truc ce soir.
On voit un match de dingue, on voit Doumbia, il y a des buts de fou.
Vous l'avez vu le premier but de Doumbia?
Le joueur,
extraordinaire.
Incroyable. C'est le but, avec la frappe de Mbappé, c'est le but de la soirée. Ouais. Et comme la volée, c'est un peu plus dur, je mets un Doumbia, deux Mbappé. Deux super buts ce soir.
Extraordinaire.
Il s'est passé un truc quand même dingue, cette histoire avec Doumbia. Donc, en plus de faire une saison incroyable, de proposer du jeu à l'extérieur, notamment où il ne ferme jamais. Tu vois, cette histoire et ce lien très fort qu'il y a entre le Roi et Doumbia, qui est malien, hein, c'est ça? Et bon, ben voilà, soirée incroyable pour lui. Il l'a fait sortir, en plus, après, il a eu droit à une standing ovation magnifique. Il met des buts, dont un magnifique sur cette
dommage, c'est qu'il va partir à la CAN.
Et il va partir à la CAN, ouais, il fait partie des joueurs.
Il aura fait un petit cadeau, et salut, je me casse, je reviens en mars. En février. Ouais.
Mais bon. Enfin,
tout le monde va pas aller au bout. Hein, parce que quand on dit les mecs qui partent à la CAN, les mecs qui. Il y a des mecs qui rentrent au bout de deux semaines. Hein.
Oui, enfin, le Mali, c'est une belle équipe. Normalement, ils devraient aller un peu plus loin quand même.
Ils peuvent pas tous aller loin.
On verra. Oui, donc tu disais sur Doumbia, c'est tout?
Non, sur Doumbia, c'est tout. En revanche, ce qui est dingue, c'est sur Brest et sur la. Pour le coup, par rapport à cette Ligue 1, on a des équipes qui jouent bien et qui parfois craquent. Même, on le disait, pour Monaco, pour Lille, comme disait Daniel tout à l'heure, cette Ligue 1 où toutes les équipes sont parfois à un moment ou à un autre décevantes. La plus régulière, peut-être, dans le jeu et dans les résultats, c'est Brest.
Brest, quand ils ne croisent pas un gros, ils gagnent.
Ah, évidemment, après oui, en termes d'effectifs, ils peuvent avoir du mal légitimement.
Mais ce soir, il a même fait un petit turnover en plus.
Ah, c'est permis. C'est pas bon pour Lorient, ça. Quand tu commences à faire un turnover contre une équipe alors que t'es Brest, c'est vraiment. C'est comme tu sais que l'autre jour, pareil, il est mis Chardonnay, son capitaine, sur le banc. C'était contre Toulouse, je crois, ou contre une autre équipe un peu présumée faible. Il s'est permis de faire un turnover.
Non, c'est beaucoup plus drôle. C'était contre l'équipe de Gilbert.
C'est contre Strasbourg.
Et d'ailleurs, mal Laurent a pris.
Bien sûr.
Tout à fait.
Hein,
il a sous-estimé.
Parce que c'est le match où on était à la montagne.
Exactement. Bah exact, on regarde ensemble.
Il a sous-estimé Gamero qui a dit.
T'as raison.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu faire un petit turnover. Gilbert est arrivé, claque sur le museau.
Pam.
Bim.
C'est vrai que.
C'était le redressement. D'ailleurs, le redressement de Strasbourg est passé
à démarrer à Brest.
À part Strasbourg. Ouais, je pense que d'ailleurs, Éric Roy, en mettant Chardonnay sur le banc ce soir-là, a relancé Strasbourg. C'est assez complexe, la Ligue 1 à analyser.
Oui, c'est comme ça, la Ligue 1.
Bravo Brest, une nouvelle fois. C'est vrai qu'on en a parlé longuement. J'ai reçu des messages de Brestois qui nous ont dit ne parlez pas de nous, comme vous guillez tout le monde, on ne veut surtout pas entendre parler de Brest dans l'After.
On l'a déjà fait parce qu'Éric Roy est venu une fois dans Génération After et une fois avec nous.
Exactement.
On a parlé avant-hier de Brest avec Stéphane qui a voulu en parler limite deux soirs de suite. Pour l'instant, nous ne guignons personne.
C'est tout ça est une légende.
Mais, c'est parce que c'est Brest qui avait commencé la légende de la guigne. Dalloglio, ils avaient une série de 10 matchs sans défaite, un truc comme ça. Ouais. Il arrive derrière, écroulement total, c'est fini. La saison terminée. Je m'en souviens très bien.
Clermont-Rennes.
Vous avez fait de l'huile après.
Les gars, j'aimerais qu'on accueille Morin, qui est là.
Honnêtement, c'est le seul match dont j'ai pas vu une image.
Bonsoir. Oui,
je sais même pas où il était ce match.
T'inquiète, compte sur
à Clermont. Compte sur Stade Gabriel Montpied.
Salut Morin.
Même dans le multiplex, je le voyais pas.
T'étais au match ?
Où il était ce match ?
Ouais, j'étais au match.
Bon, raconte.
Ben, première mi-temps assez ouverte, même pas maîtrisée par les Clermontois. On sentait une défense rennaise dès qu'on appuyait un peu sur l'accélérateur que c'était un peu en panique.
Ouais, d'ailleurs, le premier but, tout le monde est à 3 mètres du ballon.
Ouais, on aurait pu même marquer ce deuxième qui nous aurait mis un peu plus à l'abri. Puis bon, c'est Clermont dans la saison. Ça veut dire qu'on retombe comme si c'était la première saison où t'as un joueur qui va faire un truc hallucinant. Gouffry, il arrive plein de bourre, il fait strike, il prend Neto Borges et je sais plus quel joueur.
Calimundo.
Ouais, Calimundo. Et il aurait pu blesser les deux, même notre joueur. Et on sait même pas pourquoi il fait ça. On est à 30 mètres du 30, 40 mètres du but.
Non, mais là où t'as raison, c'est que ce match, on le dit parfois, c'est pas toujours le cas, hein, quand tu finis à 10, mais ce match, le tournant de ce match pour Clermont, face à une équipe rennaise en plein doute défensif, bascule quand ce joueur fait cette connerie de se faire expulser. Le match
même en deuxième mi-temps, t'as 10 minutes de folie de Rennes. où là, on sentait que ça pouvait plier, ça a plié. Et encore sur un but un peu aussi pas chanceux, mais grosse frappe du haut, la repousse, ça revient dans les pieds, ça fait bon, il veut mettre une volée, ça fait un bon, ça va dans le but. Bon bref, mais bon, on méritait de le prendre parce qu'ils ont eu 10 minutes de folie. Mais après, clairement, à 10, ils ont
même à 10, il y a eu deux occasions et deux arrêts de Mandanda, je crois.
Oui, donc voilà, après
forcément. Donc c'est pas méga rassurant pour Rennes,
pas du tout. Le match de Rennes n'est pas du tout maîtrisé. À 11 contre 11, on peut pas refaire l'histoire, c'est de l'Uchronie, mais néanmoins ce qui s'est passé c'est que la défense rennaise n'y est pas du tout. Le premier but, je vous le recommande, le but de Clermont, c'est
très clair. Bonne idée de séquence ça. Tu viens de me donner là.
Quoi, l'Uchronie?
L'Uchronie.
Ouais. L'Uchronie de l'after.
Refaisons-les autrement.
Bon, après, on s'inquiète pour elle, mais moi, je m'inquiète surtout du coup pour Clermont Foot. Parce que là, c'était un match où on pouvait peut-être espérer les 3 points, prendre un peu d'air avant la trêve. On a Duo qui nous aide, on a Cédou. C'est des équipes qui vont partir à la CAN.
Tu veux dire que ça sent la descente?
J'ai envie de te dire que cette année, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a un championnat complètement barjot. Et qu'en gagnant que 3, on a gagné que 2 matchs, en faisant un très peu nul, on n'est pas non plus à la rue complet en termes de points. On commence à être.
Oui, tu commences à être. T'es à 5 points du 15e quand même.
Voilà, mais t'es pas comparé à un championnat on a pu voir où on aurait pu être déjà lâché bien comme il faut. Mais après, c'est dans les têtes, c'est dans le staff, c'est dans le coaching, il y a des choses qu'on ne comprend plus. On avait Nicholson au bout de la 70e, il était cramé, on le fait changer qu'à la 82e. On a des joueurs qui sont puissants et percutants. Le côté droit de Rennes était catastrophique. Et ben on laisse Alevina à tout match alors qu'il est cramé. Voilà, il y a des. Et puis
tu veux dire qu'avec Nicholson c'est un peu shining à Clermont en ce moment.
Ouais. Et puis
c'est ouf ce que tu dis. Tu sais, j'ai revu le film hier. Je l'avais pas revu depuis une éternité. C'est marrant que tu en parles.
Il y a des longueurs ou pas?
Non, c'est toujours aussi bien, vraiment.
Et puis bon, on a plus petit budget de Ligue 1, on va pas se cacher derrière, on peut pas avoir des joueurs comme Rennes, mais je pense qu'on paye, on commence à payer un peu la stratégie du staff à faire des changements tout le temps tardifs. Et du coup, quand on a besoin de renouveler l'équipe, les remplaçants sont pas dans le.
Et au mercato, est-ce que Clément Michelin a une chance de signer à Clermont?
Non, j'en sais rien du tout.
C'est vrai que ce serait logique.
Un jour ou l'autre, il va falloir quand même qu'il signe à Clermont. Ouais. Sinon, on va pas y arriver.
Non, mais on a besoin de renforts sur le mercato en plus. Bon, après, nous, comme on n'a pas trop de budget, c'est pas là où tu fais les meilleures affaires non plus. Sur ce mercato-là. Mais bon, je pense qu'on est en train de payer une stratégie où on met pas tout le monde dans le projet. Clairement, parce qu'on voit que dès qu'on
essaie de. Moi, je vais te dire, moi, je suis très inquiet pour vous. Hein. Déjà, en plus, t'as le coach, il est à Georges, j'ai annoncé qu'il a arrêté. À la fin de l'année,
il est fatigué, Gatien.
Il est fatigué.
Gatien, moi,
je sens un petit peu plusieurs
tu
fois.
Sens, voilà, tu sens que c'est un peu la fin de l'aventure en Ligue 1, en fait.
C'était déjà une sorte de miracle permanent qu'il soit là. Effectivement, ça peut sentir un peu la fin de l'histoire.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'année dernière, moi, j'étais un des rares supporters à dire, je veux pas de prolongation de Gatien, parce que un, je pense que la prolongation, elle a été un peu poussée. Deux, quand on entendait les conférences de presse de début de match, à chaque fois il dit jamais il va dire ah clairement on y va pour faire un résultat, on est une équipe l'année dernière on a gardé la même ossature, on va faire quelque chose. Dans toutes ces conférences de presse il dit c'est dur. Alors pour motiver une équipe quand on coach il dit tout le temps c'est dur, je vois pas comment on peut maintenir un groupe comme ça. Et je pense que après c'est tellement facile par téléphone et en supporter de dire ça, mais je pense que stratégiquement ce monsieur, on a tous un grand respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait, mais je pense que là c'est le moment de dire stop. Dans le sens où, si on peut, soi-disant qu'on a un coach qui aurait dit oui pour l'année prochaine, et ben c'est de le faire venir maintenant. Soit il arrive à nous faire maintenir en Ligue 1, et ben c'est parfait. Soit il nous fait pas maintenir en Ligue 1, on dira.
Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé à Auxerre avec Pélissier. C'est-à-dire que tu prends un coach, un bon coach. Pélissier, c'est le cas. Ça ne l'a pas fait, ils ne sont pas montés. Ou ils sont descendus, je ne sais même plus. Mais en tout cas, en Ligue 2, là, il joue la montée clairement. Il était maintenu. Pélissier, il travaille avec quelque chose avec un vrai travail et un travail correct. Gastien, c'est marrant parce que ça a été l'un des coachs emblématiques de ces équipes qui pouvaient se maintenir en jouant. C'est-à-dire que là, tu as raison, même dans son discours, ça a été différent à une époque. Un discours quelque part beaucoup plus ambitieux. Et on louait. on va dire ces nouvelles équipes, petites équipes qui voulaient s'en sortir par le jeu. C'est vrai que là, on sent que lui, il a dit qu'il allait arrêter. Son attitude sur le bord du terrain, moi je l'ai vu là récemment, aller pourrir les joueurs adverses en permanence. Là, on est un peu loin de l'éducateur et de l'image parfaite qu'il avait il y a quelque temps. Donc c'est vrai que on commence à tirer la langue un peu du côté de Clermont.
Rennes qui se relance.
On a fini. Ouais, Clermont. Non, je voulais demander à l'auditeur qui voit les matchs tout le temps.
Non, si, je remercie Mora, mais il faut qu'on passe à Rennes quand même.
Bon, alors, je remercie. Je vais parler du gardien Boris Diaw qui a peut-être fait le match de sa vie contre le PSG, mais qui derrière a peut-être pas si dingue que ça.
Boris Diaw,
oui. C'est le frère de Boris, quoi.
Frère de Boris.
Ah oui.
Qu'on salue.
Bobo.
Rennes, on compte sur toi, Flo, vu que tu as vu le match.
J'avais vu qu'une partie, hein, très honnêtement. Donc, je vais le revoir avant de livrer mon analyse pendant les fêtes. Non, mais très franchement, le vrai problème de Stéphane pour l'instant, c'est qu'il n'a pas changé grand-chose, malgré les changements de système, dans le fait que défensivement, cette équipe est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que là, cette équipe, à un moment donné, quand elle est menée par Clermont, tu regardes le classement, c'est une équipe qui joue le maintien, mais qui se rapproche dangereusement de la zone rouge, et c'est pas immérité. Donc, tu as des joueurs de qualité dans cet effectif, c'est vrai, mais défensivement, cette équipe ne sait pas défendre, en fait. Donc là, on est sur un point quand même qui est capital. On a dit que la plupart des équipes, comme par exemple Nice en haut de tableau, avaient construit leur succès actuel sur une base solide. On a un vrai souci avec Rennes et avec cet aspect défensif. Avant même de penser à retrouver le jeu flamboyant qu'on a pu connaître, l'autre problème, quoi qu'en pense Florian Maurice, le directeur sportif, c'est la construction de l'effectif. On ne pourra pas couper à ce débat-là, et on l'a dit et dans l'after très tôt, y compris le recrutement de Matic, qui est un recrutement intéressant sur le papier, mais qui ralentit, qui va contre le jeu traditionnel de Rennes, y compris sur défensivement,
ça,
cette absence de défenseur central. Le mercato, il est capital à Rennes.
Il faut évoquer ça avec les entraîneurs. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de le faire jouer parce qu'il est arrivé, parce que c'est un grand nom?
Alors,
du foot.
On a pu penser ça. Après, il y a autre chose. Tu te retrouves coincé dans les deux sens. Matic, au début, tu peux te dire ça. Quand Rennes n'est pas encore totalement malade, tu dis pourquoi on est obligé de le faire jouer tout le temps? Ça ralentit le jeu. Je résume. Puis après, tu te retrouves dans une autre situation. T'es dans la merde, les joueurs sont plus en confiance, ils mènent 1-0, l'équipe mène 1-0 et arrête de jouer, par exemple. Bah là, le Matic qui sait garder le ballon, qui a des passes laser, il peut être utile. Et tu as du mal à t'en passer. Donc en fait, c'est un piège. C'est-à-dire que tu prends un joueur qui sans doute n'était pas dans la philosophie du jeu rennais, évidemment un bon joueur, mais qui n'est pas dans la philosophie du jeu rennais. Ça te ralentit le jeu, tu perds la confiance, il n'y a pas que ça dans l'histoire de Rennes cette année. Et derrière, néanmoins, ça fait partie des cadres sur lesquels tu penses à juste titre pouvoir t'appuyer quand ça va mal. Donc tu es coincé avec ce genre de joueur parce que c'est un très bon joueur, c'est un mec qui est impliqué dans le club, dans l'équipe, il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, la perte de confiance offensive des joueurs et la faiblesse surtout, défensive, remet en lumière le problème de l'effectif. Donc quand on parle mercato, parce que toutes les équipes, t'as vu, mercato.
Mais Rennes, mercato, ils ont déjà fait mercato énorme.
Je suis d'accord.
Ils vont refaire un là maintenant. Maurice, il est prêt à faire un gros mercato défensif.
C'est le vrai souci. Toute cette histoire là sur le changement d'entraîneur. Le problème de ce changement qui, entre guillemets, est compliqué parce que c'était pas attendu. Ils étaient prêts à le prolonger, Genesio. C'est Genesio qui a voulu arrêter. Stéphane revient très vite. Derrière Maurice, on est persuadé qu'il va arrêter. C'est ça la réalité. Et tout le monde pense, y compris au club, et lui-même a même pu penser qu'il allait arrêter. Et puis finalement, il continue.
Et là, il va falloir qu'il continue et qu'il se mette à bosser pour tout le monde.
Un souci parce que lui a estimé, y compris dans l'interview qu'il a donnée à Xavier Grimaud sur RMC, que globalement, il ne comprenait pas non plus toujours les critiques sur le mercato, alors qu'elles sont justifiées, ces critiques-là. Donc en fait, il est resté alors qu'il ne comprend pas les critiques et que pourtant on pense qu'au mercato il va falloir travailler sur les trous dans cet effectif. Et donc le Stade Rennais, oui, qui a déjà fait un gros mercato en termes de chiffres cet été, il doit refaire un mercato parce qu'en termes d'équilibre, ça ne va pas.
Dans un instant, Monaco au programme et Lille également. Les matchs que nous n'avons pas encore évoqués sur ton programme.
Et tu sais qu'il faut féliciter... Peut-être même que tu n'es pas au courant parce que c'est tombé ce soir des collègues à nous de la maison. Après Lens Arsenal, on était au match. Sur RMC Sport, il y a un film qui a fait un petit tabac parce que ça rencontre toujours de ses succès, les films sur les matchs. Là, et A en pleurer a gagné Micro d'Or ce soir. Ouais.
Bravo.
Donc bravo à Nico Lansalo, à Joris Lopez, à toutes les équipes de Laurent Salvaudon. Tu sais, tu connais les films post gros match de Ligue des Champions.
Je connais surtout les micros d'or.
Que fait RMC Sport. Et ben voilà, belle récompense pour, comme on dit dans ces cas-là, nos équipes.
Voilà. Nous félicitons les équipes.
Nous félicitons les équipes. Bravo voilà. À vous.
Dans un instant,
on peut le revoir.
Le dernier quart d'heure de la
Oui, on peut le revoir, bien sûr.
RMC Sport.
On va même le poster.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Encore 10 minutes ensemble, Florent Gautreau, Daniel Riolo sont là, on parle de Monaco. Monaco qui se relance également à Toulouse où rien ne va plus. Hein. D'ailleurs, à Toulouse, c'est comme Clermont et Lorient, c'est uniquement deux victoires sur toute la phase aller pour les Toulousains. Alors, l'Europe a un peu masqué tout ça puisqu'ils se sont qualifiés et qu'ils ont notamment battu Liverpool dans un beau match de gala. Mais là, on va parler de Monaco avec Bruno. Bruno, bonsoir.
Bonsoir, Lester.
T'es content du match de ce soir ou tu te dis c'est fragile, en plus Golovin s'est fait sortir, quel bilan tu fais?
C'est ultra fragile défensivement, c'est à faire et à ne pas faire, parce que des fois il va jouer en 4 défenseurs, des fois il va jouer en 3 défenseurs. Bon, là Golovin il se prend un rouge bête en plus, totalement bête. Là, on va perdre des joueurs pour la CAN et la Coupe d'Asie, à Minamino qui va partir. On ne sait pas sur quel pied danser avec Monaco, en fait. Heureusement, encore aujourd'hui, ils prennent des points et qu'il n'y a pas de suiveur derrière. Derrière, ça ne suit pas. Hein, on regarde Rennes, ils prennent des points à la ramasse, à l'arraché. Hein, Clermont, ils étaient à 10.
Bah, t'as quand même Brest qui a 2 points. Hein.
Oui, il y a Brest qui a 2 points, mais Brest, ce n'est pas leur place. On est d'accord. Brest.
Ah, c'est Lens, on disait en Anglais, c'était pas leur place, ils ont tenu jusqu'au bout. Donc, bon.
Oui, oui, oui. Et puis même Nice, c'est pas, normalement, Nice, c'est 5e. Hein, normalement, leur place, ça doit être Marseille, Monaco, Lyon. Bon, Lyon, cette année, il ne faut pas compter dessus. Marseille, on ne sait pas non plus. Ça va dépendre aussi de la Coupe d'Europe, de chacun. Mais
en fait, on ne sait rien de personne, donc il faut. On est tous un peu comme ça. Tout est flou, en fait.
Le championnat, on se tâtonne. On va voir un bon match d'une équipe. On va dire, bon, bah, la semaine prochaine, c'est bon, c'est lancé. Hein, ils vont jouer contre une équipe de bas de tableau, comme la semaine dernière, Monaco, ils ont joué Lyon. On s'est dit, bon, bah, normalement, ça devrait le faire. Monaco, ils jouent la deuxième place. Ça devrait le faire contre Lyon. Arrivé à la fin, et ben ils prennent un pion et puis ils perdent 1-0.
Ah, il reste quand même.
Peut gagner contre tout le monde, mais
du côté de Monaco, ok, sur l'inconstance, tu es totalement d'accord. Golovin exclu, ça veut dire qu'il sera pas là. Et on sait à quel point il est important. Il reste quand même que Monaco sans Coupe d'Europe et avec l'effectif, la qualité des joueurs, d'un 1.
C'est très faible.
C'est très faible l'effectif de Monaco en Ligue 1. Non, je suis pas d'accord.
Bah, pour moi, c'est faible.
Ah non, c'est
on s'attend
faible.
À mieux.
Alors, si Monaco, c'est très faible,
Monaco, après le PSG, c'est l'effectif le plus fort.
Non, c'est pas très faible.
Non, ils ont l'effectif.
Oui.
Mais niveau
Ah oui, d'accord. Alors, je reprends. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à toutes ces équipes dont on vient de parler, de leur inconstance, de ceux qui jouent l'Europe et qui sont fatigués, c'était le début de l'émission. Marseille, ce soir, Lens, Lille. Monaco, avec son effectif. Et avec l'absence de Coupe d'Europe, on en reste toujours là. Et même si c'est vrai que cette équipe, avec ses matchs à domicile parfois, où tu vois que les mecs ont du mal à se motiver, on en revient toujours au problème monégasque, mais néanmoins, ils ont une carte à jouer énorme. Et c'est eux les meilleurs underdogs.
Mmh. Oui, Bruno, vas-y, mot de la fin.
S'ils font pas sur le podium à la fin de saison, c'est une faute professionnelle.
Ah bah c'est un échec, c'est sûr.
C'est clairement une faute professionnelle parce que ils ont l'effectif, ils ont pas de Coupe d'Europe. Bon, Golovin, il sera suspendu en Coupe de France certainement contre Lens. Donc en soi, c'est pas
bah, énormément. Il va prendre deux matchs à mon avis quand même.
Oui, bah, possible. Après, ça dépend de son casier à la commission.
Voilà,
de discipline.
Bah, il sortait de suspension en plus.
Ah, bah là, il va prendre deux matchs.
voilà, il sortait juste de suspension, donc là il revient et prend un rouge. Faut du recrutement parce que il y a la CAN, il y a la Coupe d'Asie, ils vont perdre Minamino qui était un joueur important sur cette première partie de saison pour moi. Ben Yedder, faut qu'il soit plus souvent titulaire parce que franchement techniquement, pour moi je l'ai vu ce soir, et ben il fait la différence devant. Balogun, il a une phase d'adaptation donc faut le laisser en fait. Hein, faut pas trop lui en demander, mais Ben Yedder, c'est lui qui tient l'attaque devant pour moi. Mais on attend mieux de Monaco pour moi.
Bruno, merci.
Merci Bruno.
Bruno a terminé de Monaco. Monaco toujours sur le podium. Hein.
Il a raison. C'est vrai qu'on est quand même au final un petit peu déçu de voir les trous d'air qu'ils ont pu avoir. Eu égard à tout ce qu'on vient de dire sur l'effectif.
Ils sont là. Ils sont sur le podium. Bon, c'est une des valeurs sûres de notre championnat.
Oui,
parce que c'est
Ligue 1 qui, franchement, et c'est quand même le bilan global qu'on peut tirer, puisque c'était la dernière journée de l'aller. On l'a beaucoup dit dans l'after, mais et ça s'est encore vu ce soir.
Comme d'hab.
Ah, techniquement, ça a été plus faible cette année. Offensivement, plus faible.
Du côté imprévisible.
Oui,
mais le côté imprévisible, c'est un peu la tradition de la Ligue 1.
Ce côté imprévisible est renforcé cette année par une faiblesse, notamment offensive, qui m'a marqué. Et même défensivement maintenant, certaines équipes défendent mal collectivement, alors qu'il y avait, voilà, c'est pas toutes, hein. Je trouve quand même que c'est la déception. Et où est-ce que c'est aussi la conséquence du championnat à 18 clubs qui fait que il y a beaucoup d'équipes qui flippent.
Ça devait relever le niveau. Hein.
Normalement, ouais.
Ça devait donner du spectacle.
Mais tu as beaucoup d'équipes qui ont perdu du niveau, qui ont notamment beaucoup de faiblesses offensives, de maladresses. Je prends un exemple au hasard. Accor Adams, qui a fait un bon début de saison. C'est typique maintenant de ces attaquants de Ligue 1 qui se retrouvent dans de bonnes positions face aux gardiens et qui ne mettent jamais un pion en ce moment. Et on en a plein des joueurs comme ça. Et après, je ne te parle même pas autre chose, de la capacité à défendre collectivement. Et là, c'est pareil. La culture défensive, même ça, la culture défensive techniquement parlant, se perd. Donc, il y a quand même. C'est un constat un petit peu tristoun quand même pour cette première partie de championnat.
Strasbourg-Lille.
Là, on te laisse. Hein.
Ouais. Les gars,
Gilbert,
c'est pour toi.
Il l'a regardé en entier.
T'avais tous les écrans, mais t'avais ton iPad que tu serrais très fort dans tes mains.
Exactement.
L'émotion était
palpable. Je regrette de ne pas avoir revu le but refusé à la fin de Bakoua. Apparemment, il y avait hors-jeu, mais il ne semblait pas très évident. Enfin bon. Strasbourg a gagné. Troisième victoire d'affilée.
Strasbourg qui a été bon ou Lille qui n'a pas été bon, Gilbert?
Je ne saurais pas l'expliquer. En tout cas, que Lille. Tu parlais des équipes comme ça, avec des trous d'air, c'est fou. Au moment où tu crois que cette équipe est en train de s'installer, qu'elle développe son jeu, on n'arrête pas d'en dire du bien, de l'entraîneur, de la qualité des joueurs, parce que j'aime beaucoup les joueurs qu'il y a dans cette équipe-là, ils vont te perdre à Strasbourg. Alors, à toi de dire, Gilbert, si Strasbourg...
Strasbourg a énormément progressé en l'espace d'un mois et demi. Là.
Est-ce que réellement, il y a un progrès, il y a des craques dans cette équipe, ou je ne sais quoi. Mais pour aller gagner ce match ce soir, avec l'enthousiasme qu'il y a eu, pour le peu que j'en ai vu... Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est Lille qui est extrêmement décevant à se faire claquer ou est-ce qu'ils arrivent à bout ?
Lille a eu des occasions.
Après une demi-saison où ils ont beaucoup joué, je ne sais pas. Mais j'ai plus envie d'être beaucoup déçu par Lille.
Pour la première fois, je vais dire que Vieira a vraiment réussi les trucs. Il a relancé Sissoko au milieu de terrain qui ne jouait quasi plus, qui était fantomatique, qui a fait un gros match ce soir. Les deux recrues, là, les deux anciens Bordelais, Bakoua et Mwanga, qui ont mis un peu de temps à s'acclimater, ça y est, c'est parti.
C'est vrai que ce soir, le match offensivement a été meilleur.
Et l'autre, votre petite perle, il ne doit pas jouer tout le temps, lui ?
Angelo ?
Il a marqué ce soir.
Non, il a fait marquer.
Il a fait une magnifique passe en profondeur.
C'est pas lui qui met la frappe sous la barre ?
Non.
Mais c'est qui ?
Non, c'est pas Angelo, c'est Mwanga qui met la frappe sous la barre.
C'est Angelo
qui fait la passe.
Il est passeur et avant-dernier passeur sur le but refusé.
Exactement. Non, il fait une bonne rentrée.
C'est vrai que c'est là que je me rends compte que c'est dur d'essayer de tout voir en même temps.
Exactement.
Parce que pour le peu que je voyais, je le voyais bon, moi, ce soir, lui.
Mais il était bon.
Oui, mais il était pas
titulaire. Pas parce qu'il a pas marqué. T'as dit qu'il était buteur, mais on t'a pas dit qu'il était mauvais. Tu vois pas.
Et lui, il doit pas jouer tout le temps, lui.
Le problème, c'est que là, il y a du monde devant qui est pas mal, quoi.
D'accord.
Gamero est toujours présent, fidèle au poste, qui avait fait gagner à Lorient la semaine dernière. Emega, qui est dans l'axe, lui, c'est pas un attaquant, c'est pas un axial. Angelo, c'est un gars de côté.
Ça veut dire qu'il a mis un petit peu de temps à comprendre qui était bon, pas bon et comment fallait jouer.
Oui, puis il a relancé des joueurs, il a fait des paris qui se sont avérés gagnants.
Là où tu m'inquiètes, ouais, dans ton jugement, Gilbert.
J'espère qu'on va pas perdre Sels cet hiver. Il est en fin de contrat bientôt. S'il y a une offre, Sels pourrait partir.
Ouais.
Ça, ce serait un coup dur.
S'il y a une offre, je pense que tes amis de Blueco prendront l'oseille.
Ça dépend, parce que Blueco, ils sont pas à 3 millions près. S'il y a une petite offre comme ça, on peut le garder.
Et c'est pas qu'ils sont à 3 millions près. Ils sont à prendre de l'oseille. Donc 3 millions, ils vont pas cracher dessus.
Mercato, pour conclure, vous signalez que les discussions avancent bien pour Moscardo au PSG. Le président des Corinthians a dit que c'était fait d'ailleurs. Il a 18 ans, je le rappelle, le jeune milieu brésilien. Vincent Moscardo, le soir de Moscardo Show au Parc des Princes, évidemment. Il arrive, c'est un jeune, hein, donc attention, il a 18 ans.
Et Balerdo aussi.
Alors ça, c'est pas encore fait.
Ah.
Mais c'est en bonne voie pour le défenseur central brésilien. Et puis alors Todibo est énormément courtisé. Tottenham, Liverpool, United, Newcastle.
Il a vraiment
sont intéressés par Todibo.
La hype, première ligue.
Dès cet hiver.
Oui, mais ah. Nice veut pas le laisser partir et il est sous contrat jusqu'en 2027.
Ah, bon, c'est une affaire d'oseille.
Possible qu'effectivement.
C'est vrai que pour le coup, mercato départ arrivé au mois de janvier, ça peut être handicapant pour certaines équipes.
Et on termine.
Todibo, faudrait faire un deal où il reste jusqu'à la fin de saison.
Et on termine avec le jeu de Noël.
Oserez-vous ouvrir le coffre de Noël ?
Alexis est avec nous. Alexis, bonsoir.
Salut Alexis.
Salut les gars, ça va ?
Ouais. Alexis, je t'annonce d'ores et déjà que tu as gagné un MacBook Air.
Ouais.
Pas mal.
Pas mal.
Est-ce que tu veux
pas
plus mal. Est-ce que tu veux moins?
Habituellement, des joueurs, mais là.
Ah, il veut même pas entendre, il veut rien entendre, il veut se barrer avec.
Bah, Alexis, c'est ton choix. Soit tu prends ton ordi sous le
savoir,
bras.
Il veut s'en aller.
Tu nous dis joyeux Noël et puis basta. Soit tu prends le risque d'ouvrir le coffre où il y a une enveloppe avec soit à l'intérieur des AirPods, voilà, ou alors gros. La totale. iPhone, casque,
c'est beau quand même, hein.
Casque, la coque, le coussin chauffant, la montre connectée, la totale.
Oui, non, pour la nuit,
tu fais quoi, Alexis?
On va faire plat du pied, sécurité, on va prendre le MacBook.
T'as dit, arrête, très bien. Il veut le MacBook.
La Ligue, Alexis.
Voilà. Bravo.
Stratégie Ligue 1, mais peu payante.
Bon, t'as gagné 1-0, victoire 1-0.
Merci, Alexis. Bon, joyeux Noël.
Salut,
Alexis. Salut. Le grand jeu de Noël qui revient demain, bien sûr. Un petit coup de Survivor, tiens.
Les gars, j'ai un cadeau. Un cadeau pour vous, puisque c'est Noël.
Ah bon ?
Pour vous remercier de la saison 2022.
Ah, des chocolats, bien sûr.
Voilà.
Survivor Jingle.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
11 sur 11, décidément, tout le monde est fort. Tous ceux qui avaient joué Paris sont qualifiés, il y en avait qu'un. Ceux qui ont joué Brest sont qualifiés, ceux qui ont joué Lyon comme moi sont qualifiés, ceux qui ont joué Reims ou Monaco sont qualifiés. Donc on continuera de s'expliquer en janvier avec les 11 survivants.
Ça va être chaud quand même.
De l'équipe de l'After et tous les parieurs sur Winamax.
Très bon, c'est du chocolat. Goûter un, il est bien.
Très bien. Merci les gars, demain soir en direct de Madrid à 20h Génération After, à 21h spécial Liga et Super League pour la deuxième étape de la tournée internationale de l'After. À demain soir.
Ciao.
RMC, l'After Foot.